faire. Finalement, une très bonne introduction pour notre sujet de dossier du jour, puisque nous parlerons avec Michel Ancène de son dernier ouvrage. Il est docteur en psychologie. Il vient de publier La face cachée de la psychologie positive. Et c'est vrai qu'une étude critique des tenants et des aboutissants de la psychologie positive se faisait largement attendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'en existait pas, mais elles étaient souvent difficiles soit à lire et à digérer, soit aussi à trouver. Eh bien, Michel Ancène, lui, nous a offert un gros pavé, justement, avec un détricotage de la psychologie positive. Alors, vous verrez qu'il n'y a pas que du mauvais non plus, puisqu'il s'agit d'une critique, et critiquer, finalement, la base de la critique, ce n'est pas forcément de descendre quelque chose, c'est simplement de mettre en avant des points de réflexion et de se poser la question de savoir si tout cela tient effectivement la route. Eh bien, vous verrez qu'il y a des choses qui ne tiennent pas forcément la route et que, surtout, aujourd'hui, il y a une réaction probablement salutaire de se dire que être heureux à tout prix avec des outils ultra simples et ne pas y arriver, ben c'est pas forcément la meilleure des choses que l'on a à vous vendre aujourd'hui, tout simplement parce que c'est culpabilisant pour ceux qui n'y arrivent pas ou qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas non plus la culture ou qui n'ont pas la possibilité. Être heureux comme on vous le vend parfois, et bien ce n'est pas non plus la meilleure des idées sans le faire avec un tout petit peu de réflexion. C'est ce que nous allons vous proposer aujourd'hui avec Michel Ancène et son ouvrage La face cachée de la psychologie positive. C'est paru aux éditions Mardaga et nous l'accueillons juste après ceci. C'est avec grand plaisir parce que c'est un livre qu'on attendait. C'est vrai qu'on aime bien dans cette émission, Tendance Première, d'offrir plusieurs prismes sur une même question aux auditeurs afin qu'ils puissent avoir une réflexion. Et une critique de la psychologie positive, c'est, comme je le disais en introduction, c'est pas forcément évident à trouver. Celles qu'on trouve sont sous forme d'études et sont pas forcément à l'attention de tous les publics non plus. Et c'est enfin l'occasion, avec cet ouvrage, d'avoir cette réflexion sur la psychologie positive qu'on a un peu tendance à nous vendre à toutes les sauces aujourd'hui, quitte même à la dévoyer. Mais il faut dire que déjà, dès le départ, parce que vous revenez sur l'histoire de cette psychologie positive, vous dites dès le départ, déjà, c'était un peu bancal et on nous amenait des concepts, des théories, enfin qu'on transformait en théories, sans véritablement les asseoir sur aucune étude. Et ça, dès le début.
Oui.
C'est une des problématiques.
Oui, non, c'est clairement une problématique, puisque le courant de la psychologie positive, contrairement à d'autres courants en psychologie, a vu le jour de manière assez étonnante, puisque d'habitude, un courant en psychologie vient sur les tables un peu des chercheurs, après plusieurs années, disons, on réfléchit sur des thématiques, on les construit, on élabore des thèmes, et il y a des disciplines qui commencent à se circonscrire. Ici, ça a été délibérément créé. Donc c'est Martin Seligman avec Chicken Mialy qui ont, sous l'influence surtout de Seligman, qui ont créé réellement, donc Seligman a clairement dit, on va créer la psychologie positive. Et alors, c'était étonnant parce qu'il n'y avait pas encore de travaux réellement dans ce domaine-là, même s'il y avait toute une psychologie qui s'intéressait au bien-être, bien entendu. Donc la psychologie positive n'a pas inventé l'intérêt des émotions positives, la recherche sur le bien-être, bien entendu. Il y avait tous les travaux de Diner, notamment, depuis très longtemps. Et ici, ça a été vraiment fédéré, tout ce qu'il y avait, dans un courant comme ça, mais dont les fondements sont vraiment très, très fragiles. Et c'est bien ça le problème, contrairement à un autre courant en psychologie qui se construit progressivement. Et d'ailleurs, ce qui est quand même assez risible et presque... c'est que Chicken Mialy, donc, après 2-3 ans, a quitté le bateau, quoi. Puisque lui a trouvé que ça allait beaucoup trop vite, il ne s'attendait pas à une telle ampleur, puisque lui, il cheminait depuis longtemps sur les chemins un peu de la réflexion, du développement de soi, etc., puisqu'il avait déjà travaillé dans ce domaine-là. Seligman, lui, c'était sur le learn helplessness, donc la détresse apprise, et comme quelqu'un l'a très bien dit, il n'y a qu'un magicien pour changer la face de quelqu'un en quelqu'un qui torture les animaux, pour passer dans le grand maître du bonheur.
Dans l'ouvrage, non seulement on va découvrir avec vous que les bases théoriques manquent et que lorsqu'il y a des études qui sont effectuées, eh bien, si elles sont faites même avec la meilleure sincérité du monde, souvent elles sont réinterprétées ou que l'on manipule certains chiffres ou que l'on manipule simplement les mots pour annoncer ou pour mettre en avant certaines théories. Parce que finalement, on parle d'un concept à la base. Mais qu'est-ce qui explique explique cet engouement aussi rapide? Parce que vous l'avez dit, même l'un des fondateurs est un petit peu déstabilisé. Il semble que ça rentre dans le public très rapidement aussi en quittant le champ clinique, mais dans le champ clinique aussi, il y a une forme d'engouement. Oui. Comme si le monde attendait ça et qu'il n'y a pas de regard critique du coup. Il y a très peu d'opposition.
Oui. Mais disons que c'était encore une fois l'ère du temps qui convenait bien. Dans la mesure où, justement, Chicken Mealy, lui, travaillait sur ces concepts-là de flow là, dans les années 80, et visiblement, ça a moins séduit, parce qu'aussi, c'était quelqu'un peut-être de plus discret, tandis que Seligman, c'était la grosse machine américaine.
Oui.
Je veux dire, il était président
en plus,
de l'EPA, donc en 98, quand il a lancé ce courant-là. Donc il s'est servi un peu de sa position de président de l'EPA.
Qui a un poids important aux États-Unis.
Tout à fait, aux États-Unis, c'est un poids fort important. Donc, et en effet, ils ont créé réellement, puisqu'ils ont demandé donc, à certains collègues de leur donner des noms de jeunes docteurs en psychologie qui seraient prometteurs dans quelques années. Et c'est comme ça qu'ils ont formé certains, comme Fredrickson et Lipominski, qui ont été vraiment formés comme des prophètes du bonheur, quoi.
Oui.
Ils ont été au Mexique sur une plage pendant une semaine, et ça a été le début de ce mouvement-là. Donc c'est assez étonnant. Alors, je crois qu'il y a
ça, ça ressemble à une blague, quoi, ou un truc
oui.
de potage.
Alors, l'ère du temps convenait bien, je crois, et toute la machinerie américaine derrière, puisque très tôt, il y a eu un commerce du bonheur qui s'est développé. Les économistes se sont fort intéressés également au bonheur, puisqu'il y a des retombées énormes, évidemment, au niveau économique. Donc à Harvard, notamment, dans un cursus d'économie, il y a eu un cours de psychologie positive qui s'est bien vendu. Mmh. Il y a eu énormément de retombées, donc les gens étaient prêts à accueillir ça. Et alors qu'avant, puisque c'est pas nouveau la psychologie positive, mais alors ça a moins marché avant. Alors ici, un des gros problèmes, c'est que depuis le début, ils ont prétendu faire de la psychologie positive une science exacte, en quelque sorte, donc sur des bases rigoureuses, au contraire de la psychologie humaniste qui s'intéressait déjà à ça. Dans les années 80, avec Maslow et Rogers, c'était la même idée, donc c'était le développement personnel des individus à ce moment-là, et d'atteindre un peu des sommets comme ça de développement de soi, l'actualisation chez Rogers. Et ici, donc, Seligman a prétendu faire alors une psychologie humaniste scientifique. Or, c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de théories qui sont totalement bancales, des concepts trop vite annoncé et sans que les bases ne soient vraiment réellement étudiées. Et c'est un peu ça le problème. D'abord, il y a eu un handbook, donc un espèce de traité, un manuel de psychologie positive, 3 ans après le début du courant. Or, souvent, ça prend 10 ans, plus ou moins, pour avoir un handbook qui solidifie vraiment toutes les connaissances dans le domaine, quoi.
Mm-hmm. C'est ça que vous critiquez le plus, hein, c'est l'aspect non scientifique, en réalité, de...
Mais qui est vendu, pourtant,
qui est vendu comme étant, oui, tout à fait, de scientifique.
C'est ça le problème.
Parce que finalement, la psychologie positive, vous le rappelez, la mission, c'est de favoriser, développer et cultiver les aspects positifs des individus, des institutions et de la société. Donc, au départ,
c'est noble, oui.
C'est plutôt sympathique. Mais là où, déjà, là, on chope aussi, c'est sur la définition de ce qu'est le bien-être ou de ce qu'est le bonheur, où il y a une reformulation, on va dire, un petit peu des choses.
Oui, disons que le bien-être, on peut l'identifier depuis pas mal de temps, puisqu'il y a eu des travaux antérieurs à Seligman et toute la machinerie, parce qu'il faut l'appeler comme ça, de la psychologie positive. Donc, il y a eu des travaux antérieurs, on sait ce que c'est le bien-être, donc on distingue le bien-être subjectif, qui est la satisfaction de la vie avec des émotions positives et peu d'émotions négatives. Et à côté de ça, donc, il y a tout le courant du bien-être psychologique où on cherche à se développer, avoir des bonnes relations sociales, des sentiments de compétence, etc. Et donc, tout ça existait. Et alors, l'idée que le bonheur vendu par la psychologie positive est assez étrange parce que ça donne quelque chose, ça fait miroiter l'idée que tout le monde peut l'être déjà. Et c'est bien ça le dommage et le problème parce que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on a identifié ce qu'il fallait pour être heureux qu'il suffit alors de vouloir l'être pour être heureux. Et c'est vraiment le slogan de la psychologie positive qui est vraiment... évidemment fort teinté de la culture nord-américaine avec « si je veux, je peux ».
C'est ça, il y a un aspect aussi très culturel qui est dans cette idée du bonheur et du bien-être.
Et ça, le gros problème, c'est que ça rend le bonheur une question d'individu.
Oui.
Donc ça individualise, ça responsabilise l'individu comme son propre créateur de son bonheur.
Mmh.
Et donc du coup, ça déresponsabilise les politiques, les sociétés au sens large du terme, qui devraient plutôt s'intéresser aux différences entre les personnes. Et ici, Seligman, c'était à la base l'idée, voilà, on a assez travaillé sur le malheur des hommes, en psychologie, puisqu'on répare, ok, donc on va améliorer. Mais le problème, c'est que on va améliorer ceux qui sont déjà bien.
Oui.
Et alors, ça va profiter donc aux personnes qui sont déjà bien. Les personnes qui accrochent à ce genre de courant-là dans tous ces livres de développement personnel, c'est pas des personnes dépressives. C'est pas des personnes qui ont des conditions de vie un peu difficiles. Les personnes qui sont déjà bien. Et donc, ça va augmenter ces personnes-là, et donc l'écart va se creuser encore plus entre la personne heureuse, soi-disant, et les malheureuses.
C'est ça, la précarité est laissée de côté.
Exactement. Ben, on déresponsabilise les politiques, mais on dit, voilà, dans un slogan d'un bouquin là, de psychologie positive de Libominski, où il y a 40% de marge de manœuvre pour, avec des actions intentionnelles, élargir son bonheur, 40%, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup de marge. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'est pas parce qu'il y a 40% probablement que c'est accessible à tout le monde. Mmh. Et il y a un côté un peu risible de dire, voilà, il suffit de le vouloir pour l'atteindre. Mmh. Et voilà, c'est vraiment... Et en plus, ces 40%, quand on va regarder de près sur quoi c'est basé, donc son bouquin s'est vendu à des milliers d'exemplaires aux États-Unis, traduit en beaucoup de langues.
Je vais juste préciser pour les gens, parce que c'est 40% par rapport à quoi. Ouais. En fait, il fait ce qu'on appelle l'apple pie, pour
Exactement.
Ceux qui connaissent, donc c'est un graphique hein, en forme de tarte, qui détermine que dans notre quête du bien-être, eh bien, il y a 50% qui dépend de la génétique, 10% qui dépendent des circonstances de vie et des 40% qui dépendent des activités intentionnelles, donc de nous directement.
Exactement, oui, tout à fait, ça responsabilise l'individu, puisque si vous avez 40% de marge sur votre bonheur, a priori, il y a de la place, quoi. Mais quand on va regarder un peu d'où vient ces 40%, c'est pas juste, parce qu'en réalité, c'est basé sur des études très anciennes qui sont très approximatives, des années 70-80, publiées dans des bouquins aussi, puisqu'il y a toute une littérature en psychologie positive qui est majoritairement publiée, non pas dans des revues scientifiques de bon niveau, mais dans des livres, dans des thèses, etc. Donc, finalement, des articles qui ne sont pas soumis à l'évaluation par les pairs, donc ça pose un peu problème. Et voilà, c'est quand on a recherché... Donc, moi, j'aime bien la précision, j'aime bien de retrouver des sources exactes. Et quand on va retrouver les sources, c'est pas 40% qui est indiqué. Il y a déjà une grosse approximation, ce qui est souvent très fréquent dans le courant de la psychologie positive. Il y a des détours un peu, des raccourcis maladroits, ce genre de dérive est vraiment très très fréquent. Et donc, c'est pas 40%. Parce que c'est pas parce qu'il y a 50% de génétique et 10% de circonstances de vie qu'automatiquement ils vous laissent 40% pour les activités intentionnelles. Pourquoi ? C'est comme pour la personnalité. Il y a plus ou moins 50% de génétique pour la personnalité et 50% d'environnement, mais ça ne veut pas dire qu'on a 50% de marge de changer sa personnalité comme on veut, quoi.
Et puis c'est aussi une des critiques que vous faites, c'est que ça généralise... des chiffres qui finalement reposent sur un petit nombre de personnes.
Exactement.
Mais on en fait une généralité pour tout un chacun. Et en plus, on fait un basculement, une espèce de changement comme ça dans un paradigme qui existait jusque-là, qui était de dire que les circonstances de la vie jouaient un rôle plus important que les activités intentionnelles.
Bien sûr, puisque bon, le problème, c'est que dans beaucoup de situations, la réalité de vie des personnes... Bah, même si ce n'est que 10% éventuellement, ce qui n'est même pas vrai, mais admettons qu'il n'y ait que 10% de circonstances de vie qui impactent sur le bien-être. Si ces 10% sont vraiment très présents chez la personne, bah, ça va totalement leur empêcher le reste, puisque ce n'est pas parce que ce n'est que 10% que ça a peu de place.
Oui.
Si vous avez
un pourcentage, ce n'est pas un poids.
Exactement, vous pouvez très bien avoir seulement 10% avec un poids immense, puisque ce qui est aussi très fréquent en psychologie positive, c'est plein d'apps ou des bouquins de développement personnel comme ça, on vous propose même les activités intentionnelles, les exercices, les soi-disant exercices de la psychologie positive qui sont vraiment risibles quand on les regarde de près. Comment est-ce qu'on peut croire que l'individu va se développer en notant chaque jour, en allant se coucher, les trois bonnes choses qui se sont passées la journée, quoi.
La gratitude, ça vous n'aimez pas ça.
La gratitude, il y a toute une recherche sérieuse là-dessus, ça il faut être un peu plus prudent, mais ça dépend comment on l'utilise également, puisque, encore une fois, les concepts sur lesquels se base la psychologie positive sont vraiment flous, mais il y a quand même du bon là-dedans, mais qui est vraiment très naïf comme approche, quoi.
Il y a une chose que vous dites à propos de la gratitude dans votre ouvrage, c'est que les analyses montrent en plus un lien causal entre bien-être et gratitude, et non entre gratitude et bien-être, pardon, signifiant que c'était parce que les personnes se sentaient bien qu'elles étaient reconnaissantes, et que ce n'était pas parce qu'elles exprimaient leur gratitude qu'elles étaient enjouées.
Non, mais c'est aussi ça le problème problème de pas mal de...
Quand je disais qu'on joue sur les mots, c'est vraiment... Exactement. On a changé la place des mots et tout devient...
Ce qui veut dire, donc, l'exemple que vous avez cité là maintenant prouve clairement que ce n'est pas parce qu'on le veut qu'on va l'être, puisque la relation est dans l'autre sens. Et en effet, les personnes qui sont relativement heureuses sont davantage disposées à exprimer leur gratitude. Quelqu'un qui n'est pas heureux, vous lui demandez d'exprimer sa gratitude sur les bienfaits de sa journée ou de la semaine qui vient de s'écouler. Il va avoir du mal à trouver déjà une personne à remercier, ou la vie en général à remercier, alors que sa vie est complètement misérable. Parce qu'il y a quand même cette réalité-là. Disons, et c'est comme ça qu'il faudrait prendre en charge avant de s'intéresser.
Et pour autant, le noterait-il ? Se sentirait-il dans une béatitude ou un bien-être ? Ce n'est pas une évidence non plus. Ce n'est pas parce qu'on dit ou qu'on pense... Ben, oui, j'ai fait une bonne action, ou bien j'ai eu un sourire, ou bien... que ça va nous rendre, sur le moment, plus relâchés par rapport
au reste. Non, non. Et puis ça va être très, très léger comme effet de toute manière, parce que les effets des interventions en psychologie positive sont assez modestes. Donc ça, on oublie de le dire. Ça marche, mais je veux dire, aller à du 60% et du 40% pour le groupe contrôle, quand le groupe contrôle est de bonne qualité, parce que c'est pas toujours le cas. Ce qui fait que c'est vraiment des effets minimes, mais qui sont vendus comme avec des phrases péremptoires, en disant, voilà, soyez... remerciant de votre entourage et vous serez heureux, quoi. Non, parce que ça marche sur très peu de personnes, et donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sinon, on aurait déjà trouvé le secret du bonheur depuis longtemps. Les philosophes de l'Antiquité s'y intéressaient déjà depuis longtemps. Et en effet, il y a un poids sociétal souvent, donc des circonstances de vie peuvent totalement brimer totalement donc l'action d'action intentionnelle. Puisqu'on a beau avoir les meilleures volontés du monde, dire, oui, je vais appliquer mes petites recettes de psychologie positive, voilà, si en effet la réalité de vie n'est pas satisfaisante, comment voulez-vous progresser vers un cheminement, un épanouissement, un éclatement de soi comme ça?
Et ça, c'est un des effets négatifs que vous soulignez, effectivement, à vouloir imposer un bonheur qui dépend de l'individu lui-même avec un tel pourcentage, eh bien, on finit par avoir l'effet inverse et avoir en plus une culpabilité qui se développe chez ces individus-là parce qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils pensent que c'est de leur faute. Ça dépend d'eux, donc c'est de leur faute.
Mais dans un ouvrage là, très délicieux de Pascal Bruckner qui est vraiment intéressant parce que ça a été publié en 2000, avant que la psychologie positive ne débarque en Europe, qui c'était Le Devoir du Bonheur qu'il a publié en 2000, bah, il montrait déjà dans son analyse du bonheur que en effet, le malheureux maintenant est pointé du doigt comme un paresseux parce qu'il n'arrive même pas à être heureux alors qu'il y a plein de moyens pour y arriver. Et donc, il y a vraiment une dérive qui s'est installée dans le sens où maintenant on pointe du doigt la personne malheureuse comme n'étant pas capable d'être heureuse. Puisqu'on lui propose énormément de possibilités de l'être.
On va revenir sur d'autres aspects que vous mettez en avant qui sont extrêmement intéressants à la réflexion. Etarier, de Gross et Thompson, pour dire, voilà, on pourrait à l'avenir avoir des choses qui sont basées sur une recherche de qualité avec des supports théoriques beaucoup plus robustes.
Oui, non, tout à fait, parce que le problème, en effet, c'est que les bases théoriques, ça, on peut le dire, sont vraiment très faibles en psychologie positive parce que ça a été trop vite. Donc, ils ont proposé surtout des actions intentionnelles, donc les fameux exercices de psychologie positive, ça a été très pratique comme courant, et ça n'a pas alors étudié réellement donc les bases scientifiques, quels sont les processus finalement qui jouent là-dedans. Et pour Seligman et ses disciples en quelque sorte, c'est pas important, ça marche et c'est bon, quoi, puisque ce qu'ils veulent surtout montrer, c'est qu'il y a un effet de ces actions intentionnelles, même pour des personnes déprimées, soi-disant, sur certaines études. Et c'est vraiment le côté très, très appliqué, et que si les bases théoriques étaient un peu fragiles, c'était pas trop grave du moment que ça fonctionne. Et alors, en effet, certains chercheurs, plutôt en psychologie du bien-être en général, donc s'intéressaient alors un peu au processus sous-jacent, et notamment Alex Wood, là, qui travaille sur la gratitude, lui, depuis les années 2010 environ, donc qui est venu après dans le chemin, lui s'intéressait justement au processus lié donc, à la gratitude, comment est-ce qu'on pouvait l'expliquer, et c'était pas nécessairement comment promouvoir nécessairement la gratitude pour être heureux, c'était d'étudier, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière ça, comment est-ce qu'on peut l'étudier, l'investiguer et découvrir un petit peu les processus alors sur lesquels on peut travailler, puisque si on trouve un processus qui permet alors de développer quelque chose, on peut travailler là-dessus pour amener alors la personne à l'implémenter dans sa vie. Et alors, il y a aussi Jordi Coatbacle qui a travaillé beaucoup sur la régulation des émotions en partant sur le modèle de Gross. Et là, ça donne une assise un petit peu sur justement comment est-ce que ces interventions de psychologie positive fonctionnent. Parce qu'encore une fois, c'est le maillon faible, un des maillons faibles, de dire voilà, ça fonctionne, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, comment est-ce que ça marche. Et l'idée, c'est de trouver quel genre de théorie on peut avoir là derrière. Et notamment, la théorie de Gross sur la régulation des émotions a vraiment une théorie robuste en psychologie qui est indépendante de la psychologie positive, bien entendu. Et lui, on ne l'a pas invité dans le train. On a pris Diner, qui a travaillé beaucoup sur les circonstances finalement liées au bien-être, parce qu'ils ont publié un article, là, quelles sont les personnes les plus heureuses dans le monde.
Oui.
Et encore un article il y a 4-5 ans, là, un gros papier dans une grosse revue. Alors quand on voit les conclusions de ces études-là, ben, forcément, on peut demander à tout le monde dans la rue, à votre avis, quels sont les facteurs qui pourraient rendre les gens heureux. Ben, on trouve ce qui montre également.
Il y a d'ailleurs un auditeur qui nous dit l'injonction au bonheur est insupportable, c'est dans les pays les plus réputés heureux que les suicides sont parfois les plus nombreux.
Oui, exactement. Cette injonction au bonheur est problématique parce qu'il faut par moment donc accueillir des émotions négatives et pour pouvoir justement s'en servir, parce que les émotions négatives sont tout à fait utiles.
C'est ça.
Elles existent.
Ça, c'est ce que vous soulignez aussi, oui, dans une des critiques que vous faites, c'est que la psychologie positive ignore et met au banc les émotions négatives,
oui, oui,
alors qu'elles ont un rôle à jouer, même dans la construction de l'individu et même dans sa recherche du bien-être.
Et bien sûr, il faut passer par des émotions négatives, c'est important. Mais là encore, c'est une base un peu risible de la psychologie positive, avec le bouquin là, de Fredrickson sur son 3.2 d'émotions positives, ratio, donc d'émotions positives et négatives, qui est basé sur des calculs d'équations différentielles de mécanique des fluides, qui est totalement bancal. Pendant 8 ans, personne n'a remarqué ça. Quand un psychologue à un congrès s'est dit, mais enfin, c'est quoi cette formule bizarre? Et depuis lors, ça a été critiqué, avec Sokal notamment, qui sont venus en disant, enfin, votre base théorique est totalement fausse, quoi.
Oui.
Et pour rebondir sur les émotions négatives, oui, c'est très important.